RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Le Super Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit sur RMC, sur BFM Sport. Bien sûr, nous sommes en direct comme tous les soirs. Coupe de France au programme ce soir avec 3 matchs. Et je vous rappelle les résultats dans l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Le PSG se qualifie à Sochaux 4-1. Marseille se qualifie à Bourg-en-Bresse 9-0. Et les Herbiers se qualifient à Auxerre 3-0. Bien sûr, le 32-16 est ouvert, le hashtag RMC Live plus Direct Studio. Il neige beaucoup ce soir sur une bonne moitié de la France. Donc si vous êtes bloqué dans les bouchons, restez bien à l'écoute de l'After. Vous êtes tranquille, vous êtes là jusqu'à minuit. Et en plus, la neige nous a ramené une petite surprise. Vous allez voir. Daniel Riolo, lui, est là.
Ah, c'est moi
Daniel.
La surprise.
Non, c'est pas toi la surprise.
Ah non, moi je suis plus une surprise. Moi,
toi, t'es là, t'es un pilier. Ah. Voilà.
Bon, mais salut les amis quand même.
Et il est là, messieurs, dames.
C'est lui la surprise.
C'est lui la surprise. Parce que lui, il s'est roulé sous la neige. La neige, c'est son milieu. Il a grandi sous la neige, d'ailleurs, à Marseille. C'est bien connu. Coach Courbis, c'est là, Roland. Bonsoir.
Mais tu vois, on entend Jérôme, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les avantages et les inconvénients d'être unijambiste, mais quand tu es
unijambiste
et que tu marches sur la neige, t'es emmerdé. Alors que bon, moi j'étais moyen, mais j'avais les deux pieds.
Et voilà.
Bah ouais. Donc,
Jérôme Montagne, il habite à 5 km d'RMC, il est parti à 4 heures le mec, hein, on l'attend toujours.
Ah ouais, quand même. J'espère que t'es venu avec ta feuille.
Quelle feuille?
Comment ça, quelle feuille?
Ah zut, je l'ai pas la feuille.
La feuille du tirage au sort.
Ah, je vais la récupérer, t'inquiète pas. Tu l'avais annoncé, les Herbiers. Très bien. Bon. Je vais me faire annoncer.
Parce que avoir deviné l'OM à Bourg-en-Bresse, c'est pareil contre Sochaux. Ok, hein, on va pas se
vanter. Les Herbiers qui gagnent à Auxerre, que Auxerre a gagné à Nantes. Alors là,
on avait fait la feuille et tout. On avait au moment du tirage au sort. Les Herbiers.
Bon, j'attendais. Ouais, on va attendre jeudi quand même.
Moi, j'étais vachement inspiré aujourd'hui. Je pensais que le match Bourg-en-Bresse-Marseille allait être très serré, que tu vois, ça allait se jouer.
T'étais pas loin du coup.
J'étais à neuf buts de prix. J'y étais. Auxerre.
La journée de Jérôme Bretel est tellement pourrie que Jérôme ce matin avait dit prolongation entre Bourg-en-Bresse et Marseille.
Ouais,
Roland, il pensait aussi.
Ouais, mais moi, peut-être parce qu'il m'a contaminé, j'avais dû peut-être l'entendre maintenant que tu me dis. Donc je continue.
Ouais.
Ensuite, les Herbiers, pour moi, ils perdent à Auxerre. Auxerre qui vient de battre Nantes et qui a retrouvé une certaine confiance. J'ai dit, bon, ils vont les manger tout cru. Et ensuite, je voyais quand même un terrain difficile à jouer, une équipe sochalienne agressive. Je voyais un petit score. Ben non. 4-1 pour le Paris.
Comment s'appelait l'arbitre du match à Sochaux? J'ai oublié son nom là, celui, le frère caché de Benoît Hamon là. Hein? Il ressemble à Benoît Hamon,
ah bon, mort.
Gilbert, t'as pas remarqué ça? Qu'est-ce que tu fais sur un match comme ça où il se passe pas grand chose à part essayer de trouver des mecs qui ressemblent à quelqu'un?
Bah non, là je t'avoue que.
L'arbitre, moi j'ai oublié son nom, enfin le frère caché de Benoît Hamon donc.
On m'a signalé une ressemblance lointaine entre Dani Alves et Jamel Debbouze.
Ah bon, vraiment de très très loin quoi, de l'autre bout du stade alors. Hein.
Bon. Ah, c'est pas le même genre hein.
Ah bon?
Ouais.
Bon, bref, l'arbitre, franchement, je lui en veux, quoi.
Pourquoi?
Trois minutes qu'on voit Dani Alves dans les buts.
Bah ouais.
Un tir cadré, un truc, fais-nous ce plaisir.
Les gars,
déjà, tu sors un carton rouge sur trappe. Bon, ok, sors-le si t'as envie. Mais au moins, derrière, régale-nous, laisse trois minutes qu'on voit Dani Alves dans les buts. Je sais pas. En plus, t'as vu, sur le coup franc, il s'était placé comme Areola à Lyon.
Ben oui. Je l'avais vu avec ses grands gants verts, là. J'ai dit, pow. C'était des gants télescopiques.
Dani Alves restera sans doute le seul gardien du PSG invaincu cette saison.
Ah oui.
Rien que pour ça, c'est une sorte de statistique.
En revanche, plus sérieusement, le PSG a battu un record historique ce soir.
À le nombre de
victoires successives en Coupe de France depuis la création en 1917, je crois.
Sans une fois les prolongations.
Non. Pas une fois.
Ça, je savais pas ça. Sur toutes ces victoires, ça, je savais pas ce détail-là.
Pas une fois la promotion.
Ce record, il est quand même
impressionnant.
C'est impressionnant quand même. Ouais. Voilà. C'est tout. Là, je pense qu'on a tout dit sur le match.
Attention à checker parce qu'on me dit que Lille a une série dans les années 40 qui.
Je crois que Paris l'a battu ce soir la série du LOSC.
Bon, on va checker ça pour être être sûr. Ah, juste quand même une question préalable, les gars. C'était le débat un peu dans Team Duga avant le match. Est-ce que à une semaine du Real, il fallait envoyer sur le terrain les Cavani, les Verratti, enfin les mecs qui vont jouer contre le Real. Est-ce que Emery aurait peut-être dû emménager certains, Mbappé ou pas?
Non, moi je suis superstitieux, c'est pas nouveau. À force de parler de matchs pièges, eh ben tu te le crées tout seul, piège, tu le construis. Et à force de parler de blessures, eh ben tu augmentes les risques de blessures. Si tu joues un match justement en pensant que tu vas te blesser, ben pour moi tu augmentes les chances. Et là, bon après, que les joueurs puissent faire attention de ne pas se blesser justement, qu'ils puissent ne pas être à 100%, ok, mais tu peux pas faire tourner tout le monde non plus. Il y a quand même 4 ou 5 joueurs minimum qui seront au départ du match contre le Real.
Il y a un truc quand même qu'il faut regarder de près, c'est que sur les dernières semaines, Emery a vraiment dosé les temps de jeu à quasiment tous les postes. Vraiment, il a fait tourner et il a parfaitement géré les temps de jeu. Et je ne crois pas qu'il y ait de surmenage, alors que pourtant le PSG, ils font quoi en ce moment? Ils jouent tous les 3 jours. Donc il n'y avait pas de raison de faire tourner plus que ça. Et je crois que ça va continuer jusqu'au match de mercredi.
Après, c'est Jérôme Brizard, l'arbitre, Daniel.
Après, si tu veux,
il ressemble à Benoît Hamon. Regarde,
il y a des choix qui sont faits. Par une certaine volonté, et il y a des choix qui sont faits aussi par hasard. Quand tu as les expulsions, quand tu as les blessures.
Oui, mais il a géré aussi en fonction de ça.
Ça te permet aussi de faire tourner, mais c'est vrai que le roulement là qu'il fait ces derniers temps, ça, il me paraît quand même être logique et cohérent. Ouais.
Daniel, petit quiz, est-ce que tu sais quel est le coach qui est le dernier à avoir battu Paris en coupe?
C'est Roland, oui. Le PSG Montpellier.
C'est Coach Courbis.
Ils m'ont invité pour ça ce soir. J'ai compris.
Je me souviens.
C'était avec Montpellier, évidemment.
Et au Parc.
Et au Parc des Princes.
Ouais, j'ai un 2-1. Je me souviens très bien parce que la veille, j'avais eu Roland au téléphone et il m'avait dit comment il ferait.
Et il l'a fait.
Ça après je me souviens pas, en tout cas je sais qu'il avait gagné.
Il y a eu pas mal de réussites. Bon, c'est-à-dire qu'on avait mis une équipe surprenante au niveau offensif. Il y avait 4 joueurs, voire même 5 à vocation offensive. Et on s'était fixé comme objectif, si on voulait avoir une chance, donc on s'était fixé comme objectif de marquer au moins 2 buts. Et notamment sur coup de pied arrêté. Non,
mais c'est quand même pas ça ton exploit, de te fixer un objectif de mettre 2 buts.
Attends, tu me laisses pas finir. Et justement, exploiter les coups de pied arrêtés où nous avions de bons joueurs de tête et de bons tireurs.
C'est sur corner le deuxième but.
Le deuxième, c'est Montagne de Songe. Et le premier, c'est Congré sur beaucoup franc frappé par Tiennet. Donc, on avait envisagé qu'il y avait
Tiennet,
peut-être.
Tiennet, dis donc.
Ouais, on avait envisagé qu'il y avait peut-être une. Ouais, mais bon.
Il a disparu. Lui.
Si tu veux, ne parle pas du match d'après, parce que le match d'après, on s'est fait éliminer par Cannes. Hein.
Mais c'est ça le truc qui est terrible pour toi cette année-là. C'est que tu sors le PSG, et franchement, ça représentait un exploit aujourd'hui, à l'époque, pareil, et que derrière, tu n'ailles pas plus loin en Coupe de France.
Mais c'est terrible, ça. Mais tant contre Cannes à Cannes, sur un terrain boueux, et je vais te dire un truc, je fais une connerie, on va voir le terrain, il y a la possibilité de remettre le match au lendemain, parce qu'il est vraiment injouable. Mais en remettant le match le lendemain, on est en train de jouer le maintien, ça nous fait un jour de moins de récupération pour le match de samedi, c'est-à-dire on devait jouer le mardi. Et là, j'ai dit non, je préfère jouer ce soir, parce que je pense sincèrement que même dans la boue, on va battre
le calendrier. Tu vois,
les calendriers.
Je me le suis pris un peu de gueule, comme un boomerang. Et en plus de ça, Guingamp gagne cette coupe-là. Un peu grâce à nous aussi, parce que c'est nous qu'on a éliminé le Paris Saint-Germain, que personne n'arrive à éliminer.
Pas faux.
Ouais.
J'aurais dû demander des primes, peut-être.
C'est vrai.
En tout cas, c'est Jean Café, hein, Jean Café Crème, qui m'a signalé que c'était toi le dernier. On accueille Cyril, qui est supporter du PSG. Ah, on aura également Sofiane, qui est supporter de Sochaux. Cyril, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Cyril.
T'as bien aimé le match de la Saladia, Cyril?
Bah ouais, quand j'ai appelé tout à l'heure, en fait, c'était la 31e de mémoire à peu près. Et en l'occurrence, je trouvais qu'il avait fait une 30 minutes assez intéressante. J'en parlais avec l'un de vos collaborateurs à l'accueil. Et en fait, c'est vrai que je le trouve dans le jeu court et dans le jeu long assez intéressant et plus intéressant que certains. Alors après, on va pas en faire un titulaire pour Madrid pour le moment. Mais je me dis que je trouve qu'il n'est pas loin. Et il n'est pas loin dans le sens où physiquement, je l'ai trouvé surprenant. Et donc c'est bien parce que ça va pouvoir faire souffler des joueurs et donc voilà, c'est une solution.
Alors là franchement je comprends pas trop le point de vue parce que donc le PSG joue un match très tranquille, limite en marchant contre Sochaux, il gagne. La Sanadira, c'était à peu près la seule chose intéressante qu'il y avait à regarder dans la partie. Je l'ai pas trouvé transcendant du tout. Je l'ai pas trouvé très rapide dans ses déplacements. On est à une semaine du match au Real. Moi, s'il démarre à Madrid, je veux bien. Ouais, non mais attends, t'es marrant, Cyril. La Sanadira, je veux dire, excuse-moi, mais pour faire tourner ou quoi, t'as largement assez de joueurs. Il y a Thiago Motta qui va revenir.
Daniel,
la Sanadira, on me l'a vendu comme un mec susceptible de jouer contre le Real. Moi, contre le Real, je te le dis clairement. Il faut absolument convaincre et mettre dans la tête à Rabiot de jouer 6 et il doit jouer avec Lo Celso et Verratti. Les hommes en forme du moment c'est Rabiot, Lo Celso, Verratti qui doivent jouer.
Si tu veux sur les hommes en forme, on fait quoi avec Di Maria alors?
Ça c'est l'autre débat.
Restons sur
Diarra.
Et ensuite tu reprends la
parole. Comme un gars qui revient et qui fait un match correct, si tu me demandes comment je te l'ai trouvé, ça me facilite les choses. Demande-moi quelle note je lui mets. Ben, je vais lui mettre 10 ou 11 sur 20.
Et tu le vois capable de jouer au Real?
Alors justement, dans un match de ce niveau. Ça c'est un risque qui sera difficile à prendre. Mais attention, même si tu viens de dire, et tu as raison, que le match du Real, c'est dans quelques petits jours, pour la Sanadira, il est très loin le match du Real parce que il va falloir récupérer quand même des kilomètres faits ce soir et jouer
contre Toulouse.
Eh ben on verra le match contre Toulouse, je touche du bois qui ne retrouve pas un petit pépin musculaire et tout avec ces deux matchs en 3 jours parce que le parcours de la Sanadira, je le disais tout à l'heure, je n'arrive pas à le suivre, je ne comprends pas certains choix, je n'ai pas compris certaines formes maximum et d'un coup disparaître.
Pour moi c'est un mystère. Mais est-ce que toi,
et en plus il est sympa, sérieux et tout, mais moment c'est un fantôme.
Mais voilà, mais dans une semaine au coup d'envoi, t'as l'effectif du PSG avec l'historique que t'as sur cette équipe sur les derniers mois au milieu de terrain, tu le fais pas démarrer?
Vraiment pour le faire démarrer,
Thiago Motta va revenir, t'as Rabiot, Lo Celso, Verratti. Alors, on va me dire oui, mais aussi en poste de 6, y a qui? Ok, tu fais jouer. Mais même sur ce qu'il a montré sur les dernières semaines, mais Lo Celso, à la limite, même s'il a pas les caractéristiques propres.
Ouais, mais après,
Lo Celso, il a jamais joué un match de ce niveau-là.
Il en a pas joué depuis 6 ans des matchs de ce niveau-là.
Ouais, mais alors après,
quelle est la logique?
Et pourquoi est-ce qu'on mettrait pas Di Maria dans les trois derrière les trois?
Mais
dedans,
qu'est-ce que tu vas faire à Di Maria dans les trois là alors que t'as déjà tout ce qu'il faut pour jouer à ce poste-là?
Mais le cas Rabiot, sincèrement, que Rabiot puisse préférer un poste plutôt qu'un autre. Bon, mais ça va.
Sur un match contre le Real,
contre le Real, si dans l'intérêt de ton club, de ton groupe, de tes coéquipiers, de ton équipe, c'est la bonne solution jouer là et que tu en as un peu les qualités, mais tu dois te faire un plaisir de jouer là.
Mais je comprends même pas le débat, moi.
Cyril, un dernier mot pour toi, c'est toi qui conclus.
Juste, un dernier mot, c'était juste pour vous dire que je sais pas d'où vient le fait que vous puissiez vous poser la question que Diarra va jouer à Madrid, puisque moi je l'ai pas dit. Je voulais juste vous dire.
Non, on
ne
dit pas que tu l'as dit, mais c'est quelque chose qui semble, je ne sais pas pourquoi ça plane, Daniel, cette histoire.
Daniel, le match du Real, il est important, il est dans une semaine, tout en sachant que le match du retour, c'est dans 4 semaines, d'accord, et que la vie de PSG, sportivement parlant, elle s'arrête pas au match dans une semaine. Donc en l'occurrence, d'avoir un joueur.
Mais est-ce qu'il est utile, Cyril, par ailleurs?
Bien sûr que oui. Mais non, pas par ailleurs. Mais en l'occurrence, par contre, dans 4 semaines, pourquoi il ne serait pas au retour au parc contre le Real, ce qui serait déjà pas mal. Et en 4 semaines... Non, mais
tu pourrais rajouter, si par exemple, il y a un pépin avec Verratti, il y a un pépin avec Rabiot, ça peut arriver, puisque Rabiot, en ce moment, il relève de blessures. Là, s'il rentre, j'espère qu'il joue un morceau de match contre Toulouse, parce que ça fait quand même quelques jours qu'on ne le voit plus. Donc, que la Sanadiera puisse dépanner ou rentrer à la 65e minute dans les matchs à venir, voire même en Champions League, oui, pourquoi pas. Mais de le mettre titulaire d'entrée au Real à Madrid, sincèrement, je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions, y compris dans son intérêt à lui.
Allez, on va parler un peu de Sochaux. Je vous lis quelques petits tweets, les gars. Le hashtag RMC Live est là toute la soirée. Little Man qui le dit, Riolo Courbis, le duo de légende réuni à nouveau. C'est émouvant, me dit-on.
On va faire pleurer les anciens.
Alors, tiens, j'ai Jérôme qui dit, Siakatiené, je vous signale qu'il est l'invité
de
l'émission Le Vestiaire.
Il est dans le vestiaire.
En direct, en fait, il est à 3 mètres de nous.
Mais oui,
le studio du vestiaire.
Je viens de le voir, moi aussi, qu'il était là.
Et puis j'ai Sly qui nous dit Roland dans l'after, ça fleur bon la Coupe du Monde 2010, par contre beaucoup trop amical avec Daniel, hein. Va falloir récupérer les bonnes habitudes. dit-il, voilà. Bon, allez, un mot sur Sochaux avec Sofiane qui est là. Salut Sofiane.
Bonsoir messieurs, bonsoir.
Salut Sofiane.
Bah dis-moi, un partout, on s'est dit, tiens, il peut se passer un truc.
Ah, tu t'es dit ça,
ouais. Ouais, mais je vous entendais tout à l'heure parler de l'effectif parisien. Nous avons existé l'espace de 10 minutes. Et j'avais eu la chance de vous avoir déjà l'an dernier, quand on avait affronté Monaco. On va être pragmatique. Pour nous, c'est toujours agréable de jouer en prime time devant la France du foot. Quand on voit la valise que Bourg-en-Bresse s'est pris, je me dis qu'on a quand même essayé de faire avec les moyens qui étaient les nôtres. Quoi. Donc c'était pas bon. Le rapport de force était trop déséquilibré avant le coup d'envoi. Donc on a fait ce qu'on a pu. Et avec la blessure de Martin, j'ai su que il n'y aurait plus de match. J'ai même appris qu'il était vraiment sérieusement blessé. Donc, c'est un vrai coup dur pour le CSO.
Ouais, le docteur Courbis a vu le genou tout de suite. Tu as eu des informations qui vont dans ce sens,
ouais. Sofiane, j'ai pas entendu, pardon.
Je disais qu'on parle de blessure.
Il connaît le kiné.
Non, mais là, nous, on est, peut-être qu'il y a des infos qui circulent sur les réseaux sociaux.
Visiblement, ça serait les croisés qui seraient touchés d'après ce que.
Ça a été dit également.
Ça a été dit par Coach Corbis aussi dans le match. Mais je fais confiance au docteur.
Bah, Roland, il n'a pas besoin qu'on lui dise, il le dit.
Ah oui, c'est ce que
il
je
le voit, le genou, et c'est bon.
Mais en tout cas, on n'oublie pas l'important pour nous, à savoir la Ligue 2, le match de Reims ce week-end.
Oui, mais ce soir, tu perds un très bon joueur après avoir perdu Kaloulou. En quelques jours, là, ça fait deux joueurs importants pour justement jouer des rôles de trouble-fête.
Ça va être dur, surtout que la Ligue 2 est très relevée. Et puis, un des objectifs quand même ce soir, c'était de donner une bonne image de Sochaux, de la Franche-Comté, en vue d'un éventuel repreneur, car je ne vais pas revenir sur l'actualité combien tumultueuse qui secoue le FC Sochaux. Je pense que les supporters de Sochaux, dont coach Courbis fait partie après avoir passé quelques années chez nous, doivent quand même être un petit peu inquiets.
Mais oui, mais malheureusement, je crois qu'ils ont raison d'être inquiets.
Tu sais, Sofiane, sur cette affaire, on s'est très peu intéressé parce que Sochaux a un peu disparu des radars ces derniers
malheureusement.
Temps.
Malheureusement.
Moi, beaucoup de fois, on m'a alerté sur ces affaires en m'envoyant des mails. J'ai fait attention sans plus relever et on m'a dit des choses assez graves sur ce qui se passait, sur les gens qui dirigent le club aujourd'hui. Et visiblement, là, tout s'accélère et maintenant, on a l'impression vraiment que le club est en péril. Et je repense à tout ce qu'on m'a dit sur ces dirigeants. Je t'entends, toi. Et peut-être, effectivement, qu'on aurait dû regarder. Alors, je ne sais pas si on aurait pu faire quoi que ce soit pour sauver le club et pour l'empêcher d'être dans cette situation. Hein. Peut-être, en tout cas, qu'on aurait pu en parler. Ouais, c'est vrai.
Mais il n'est pas trop tard. Si un repreneur nous entend, qu'il est prêt à négocier avec Monsieur Lee, qui n'hésite pas à le faire. Je veux dire, rien qu'à l'idée de penser que le FC Sochaux peut disparaître des radars.
Mais qu'est-ce qu'il en est? La famille Peugeot, ils veulent plus? C'est quoi le truc?
Il y avait l'arrière-petit-fils Peugeot qui voulait.
Ouais, non, il me semble qu'il y a le petit-fils Peugeot qui travaille dans un fonds d'investissement, si je dis pas de bêtises, qui lui, à un moment, aurait pas été désintéressé. Mais est-ce que l'affaire va se faire ou pas, c'est très compliqué.
Mais vraisemblablement, alors moi, figure-toi que j'ai croisé l'ex-président Plessis il y a quelques semaines.
Qu'est-ce qu'il devient?
Il est à la retraite. Il est au chaud à la retraite. Ouais, mais
Il vit là-bas, il vit à Paris.
Non, pas du tout. Je crois qu'il a plusieurs résidences, d'après ce que j'ai compris.
Ah, d'accord.
Il me disait que ce membre de la famille Peugeot n'avait pas forcément l'argent pour racheter le club. Parce que c'est une initiative personnelle. C'est pas la famille, tu vois, qui veut y aller, Sofiane.
Ouais, tout à fait. Il y a quand même une quantité non négligeable à lever, donc l'avenir est quand même pas très optimiste, donc c'est relativement difficile pour les joueurs de se concentrer dans l'état actuel des choses.
Ils peuvent encore monter sur chaud, attention, parce que ils peuvent.
Oui, mais avec les deux joueurs qui perdent là,
Daniel, évidemment, je lui ai demandé si l'anecdote Libéropoulos qu'on avait raconté dans l'after était vraie. Et il m'a dit, mais bien sûr, le maillot, il est encore au club.
Je me souviens plus.
Vous savez pas cette histoire fantastique?
Non, je me souviens plus.
Bah, on l'avait raconté dans l'after, un socialien qui nous a raconté ça.
Ouais, c'est vrai.
Plessis veut faire venir Libéropoulos, à l'époque grande star de la sélection grecque. Libéropoulos vient à Paris avec sa femme enceinte. Ils arrivent à Paris. Il faisait un temps, c'est une grosse chaleur, enfin bon. Et là, pas d'avion pour aller à l'aéroport de Mulhouse-Balle, qui est près de Sochaux. Ils vont louer une bagnole, plus de voiture à louer, donc ils se retrouvent avec une petite voiture, avec l'agent à trois, Madame Libéropoulos enceinte, à faire la route de Paris à Sochaux. Bon, ils arrivent à Sochaux, transpirant et tout, visite de la ville, etc. Et puis,
visite de la ville, c'est vite fait.
Plessis sent qu'il y a un truc bizarre. Il voit Madame Libéropoulos qui est pas bien, et il est avec Libéropoulos dans le bureau. Conférence de presse organisée dans la foulée avec le contrat, et là Libéropoulos lui dit, attendez président, je vais juste aux toilettes. Il sort du bureau, il s'est barré, ils l'ont jamais revu. Et il est reparti.
Et il s'est barré comment?
Il s'est barré, il est rentré dans la voiture avec sa femme, il est parti.
Ça lui a pas plu.
Et Plessis s'est retrouvé là comme un con avec le contrat et les journalistes qui attendaient à côté à la conférence de presse et tout. Et donc il m'a dit, bah oui, le maillot floqué Libéropoulos, il est toujours au club. C'est génial cette histoire.
Libéropoulos.
Bah Sofiane, tu verras pas Libéropoulos. Il a arrêté.
On a eu Coach Courbis dans les années 70, donc ça nous va très bien.
C'est vrai. Merci Sofiane, bonne soirée.
Salut Sofiane.
Je rappelle les scores. Donc le PSG se qualifie à Sochaux 4-1, Marseille se qualifie à Bourg-en-Bresse 9-0, les Herbiers se qualifient à Auxerre 3-0 et Jérôme Rotten a fait demi-tour, il rentre chez lui. 4 heures de bagnole sous la neige, il a craqué. Donc voilà. Jérôme, on te dit à demain. Et heureusement qu'on a Coach Courbis, notre sauveur. À tout de suite dans l'after. On va parler de l'OM. Et puis tiens, avant minuit, on entendra également Bruno Genesio qui nous a expliqué aujourd'hui qu'il y avait peut-être un complot contre Lyon là, concernant les pénaltys. Ce sera tout à l'heure.
Ah, complot.
RMC, le super football show, l'after foot, Gilbert Brébois.
Daniel Riolo est là et Coach Courbis de retour dans l'after ce soir. Et oui, grâce aux conditions météo, Coach Courbis est là, ça qui est beau.
Mais tu vois, ça m'a fait plaisir que tu dises grâce et j'ai peur que tu dises à cause.
Bah quand même, on est ravis de te retrouver nous dans l'after. Alors j'ai retrouvé la fameuse feuille de la Coupe de France avec les pronostics qu'on avait fait le jour du tirage.
Ah, alors donc, les Herbiers.
Pour Bourg-en-Bresse-Marseille, Daniel t'avait dit Marseille.
Juste.
Pour Sochaux PSG, t'avais dit PSG, t'as juste.
Ça gratte de forme ce soir-là.
Et pour Auxerre les Herbiers, t'avais dit Auxerre.
Mais non.
Eh oui, c'est écrit là.
Mais non.
Eh ben oui, c'est là.
Mais non, sinon, je serais pas arrivé content.
Tu n'es qu'un.
Mais c'était Jérôme, tu confonds.
Alors très bien, puisque t'es pas content, on va pouvoir vérifier par la bande audio, s'il te plaît. C'est parti.
Aïe, aïe, aïe.
Merde. Ah non, on l'a pas encore. On est en train de la monter.
Oh, le sourcil.
Tu vas y avoir droit, parce que là, la preuve irréfutable sera là. Bon, allez, on finit sur le match Sochaux-PSG avec une petite évaluation. Hugo est avec nous au 32-16. Mais salut Hugo.
Salut les gars, ça va?
Ça va et toi?
Salut Hugo.
Super. Bon, je commence par mon mauvais point. Franchement, la Sanadiara, les gars, c'est n'importe quoi. Hein. Il est nul à chier, vraiment. Je suis désolé, je pèse mes mots, mais...
Moi, j'ai rien trouvé d'extraordinaire ce soir dans ce
match. T'as
mais nul à chier, t'exagères peut-être un peu.
Mais il fait 600 kilos, les gars.
J'ai pas entendu si Roland m'a donné son avis là-dessus.
Bah oui, 600 kilos. J'ai même donné une note, 10 ou 11.
Ah oui, c'est vrai. Voilà.
10, ouais.
J'ai plus ma tête, hein, vraiment.
J'ai spécifié sur 20, des fois que vous avez pensé que c'était sur 11.
Ah tiens, juste, Hugo, tu vas reprendre la parole, mais Thiago Motta est dans la zone d'interview à Sochaux, on peut l'écouter.
On est tous prêts. On est tous prêts. Dès qu'on sort dans le terrain, parce qu'on est prêt, comme j'ai dit avant, après, Ici, on est tous des bons joueurs, des joueurs intelligents aussi. Et le bien que le coach, il a, l'entraîneur du Paris Saint-Germain aujourd'hui, il a beaucoup d'options pour démarrer un match, pour faire entrer pendant le match des autres joueurs. Et c'est bien pour, c'est bien surtout pour l'équipe.
Et c'est pas trop court pour toi.
Voilà, et ben, Thiago Motta, donc il y a beaucoup d'options, tout le monde est bien, il est content. Hugo, donc toi t'es pas content de la Sala Diarra, et tu veux surtout pas le voir à Madrid en l'occurrence. Hein.
Non mais attendez les gars, il y a une configuration à Madrid, c'est Rabiot en 6, il n'y a pas d'autre solution là. C'est Lo Celso et pour moi pas assez d'impact physiquement pour jouer en sentinelle. La Sala Diarra, je suis désolé, il fait 600 kilos ce soir, c'est une tondeuse à gazon, le mec, il est lent. Genre,
moi aussi, je trouvais lent, moi, ouais.
Ok, peut-être qu'il est bon dans le jeu court, mais sinon, excusez-moi, zéro récupération pour une sentinelle,
Attends, en ce moment, est-ce qu'on ne se trompe pas? Bon, déjà, Rabiot, on est d'accord avec toi, bien évidemment. À condition que Rabiot rentre au moins 45 minutes contre Toulouse sans risque de rechute. Mais la Sala Diarra, pour le moment, c'est celui qui permet à un joueur, quand il est sur le terrain du Paris Saint-Germain, de se reposer. Et notamment Verratti, Rabiot ou Lo Celso, mais c'est sûr que si tout le monde est sur le pont, c'est pas la Sala Diarra qui va pouvoir être titulaire contre le Real à Madrid. C'est quelque chose qui est impossible.
Roland, mais je crois que la Sala Diarra a quand même été recrutée dans cette optique, ou au moins.
Peut-être en pensant au match retour, Hugo, j'en sais rien. Peut-être en pensant au quart de finale. Je sais pas, en pensant
s'il y a des blessures.
Oui, moi, mais je ne comprends tellement rien à ce transfert que j'attends de voir. Moi, quand je comprends à ce point rien, j'ai envie de voir, donc j'attends. J'attends.
Hugo, merci en tout cas. Bon, on va pas non plus faire toute l'émission sur la Sala Diarra. Hein,
non, surtout qu'il y a un point d'interrogation devant quand même.
Alors, sur Di Maria. Toi, Roland, est-ce que tu mettrais Di Maria contre le Real? Ce soir, il met un triplé. Depuis 8 buts en 8 matchs depuis début 2018.
Le faire démarrer peut-être. Le faire démarrer pour des raisons aussi.
Et alors, qui tu mets sur le banc? Mbappé?
Démarrer, ça veut pas dire que Mbappé ne va pas rentrer en cours de match et foutre la panique dans la deuxième partie du match et au match retour. Mais en ce moment, mettre un coup de marteau sur la tête de Di Maria contre son ancien club, dans le match aller de ces deux confrontations, et après, il y a 3 semaines.
Moi, je serais très surpris qu'il soit titulaire.
Hein. Ah non, mais je te dis pas que ça va se faire. Me pose la question à moi. Je te dis, c'est difficile de le mettre sur le banc.
Ben là, clairement, il est bon. En ce moment, il est meilleur que Mbappé, qui, à mon sens, à chaque fois qu'il joue, montre toujours cette qualité en contre, cette accélération qui fait très mal, sauf qu'il termine très mal les actions. Et il n'utilise pas à bon escient, justement, ses qualités en ce moment. Donc, si on s'en tient à ce que ça doit être, à savoir l'homme en forme doit jouer, Di Maria devrait démarrer. Je suis pas sûr que ce soit le cas parce qu'il y a le statut et
l'histoire du prix de Mbappé. Est-ce qu'on peut se payer la gaffe de les faire jouer tous les quatre?
Non, ça j'y crois pas. Ça j'y crois pas. Mais il y a quand même quelque chose qui est étonnant avec Di Maria, c'est cette façon qu'il a quand même de jouer des demi-saisons, quoi. Dire il joue des saisons, enfin l'année dernière, on le disait pendant la pub, l'année dernière le mec, on recrute Draxler pour le motiver.
Ouais mais
Daniel, il finit par être bon à nouveau.
Il y a un truc quand même chez Di Maria, excuse-moi de te couper, c'est que un des gestes de Di Maria, on les connaît, la patte gauche, le tir enroulé, tout, mais un des gestes de Di Maria, c'est le plat de la main sur les ischios. à la suite d'un sprint, le nombre de fois que Di Maria a eu comme entraîneur le kiné du club sur les 6 dernières années, c'est impressionnant.
Mais Di Maria, c'est pas beaucoup blessé, Di Maria.
Quoi? Ben, tu seras de refaire.
Di Maria, c'est beaucoup blessé, Di Maria.
Sur les dernières années? Mais.
Bah, Roland, je vois pas ça.
Eh ben, moi, je le vois.
Oui, c'est blessé, Di Maria.
Alors,
si t'es pas en forme, ouais, il est blessé.
Eh ben, tu veux.
Passons à la suite.
Non, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il lui faille tout le temps et qu'il ne joue que 6 mois. En gros, chaque année, le PSG doit dépenser 100 millions pour le motiver.
Mais je le dis souvent à cause de blessures et de blessures aux ischios. Et je pense pas me tromper.
Les gars, on va enchaîner parce qu'il est déjà 23h37, le temps passe très vite. L'OM qui gagne 9-0, triplé de Mitroglou. j'ai bien dit, triplé de Mitroglou. La dernière fois qu'il avait fait ça, c'était il y a pile 2 ans avec Benfica. Bon, voilà. Bon, ils se sont baladés hein, face à Bourg-en-Bresse, qui est une équipe qui galère, ouais, en,
belle
qui galère en Ligue 2.
Une belle balade.
Mais des fois, ces matchs, des fois,
il faut coller 9-0.
Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que si Mitroglou peut arriver à rendre quelques services, là aussi, le roulement, il est beaucoup plus facile pour Rudy, et ne pas toujours faire jouer Germain et Thauvin, et d'avoir d'autres solutions pour faire tourner avec le calendrier qui leur reste, c'est-à-dire la Coupe de France, l'Europa League et le sprint final pour la place dans les trois premiers. Il leur faut un effectif, et là il est, avec le retour d'Amavi, cet effectif de qualité y était, et je dirais même maintenant il est en quantité aussi.
Donc 9-0, c'est pas anodin.
Non, même si Bourg-en-Bresse est en perdition, enfin mal en point en Ligue 2.
Et il y a 15 jours, ils ont éliminé Toulouse.
C'est un club de Ligue 2. Marseille contre Épinal, ils avaient ramé, preuve qu'en Coupe de France c'est pas toujours simple. Il y a pas beaucoup d'équipes qui collent des 9-0. C'est pas un score qu'on a l'habitude de voir.
Ça nous a permis de faire le débat traditionnel. Il paraît que quand tu mets 9 à 0, c'est parce que tu respectes l'adversaire, toi.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est que t'as joué sérieusement du début.
Si
à la
tu
fin.
Le rends en 15, tu leur fais des câlins. Je sais pas que ça te fait.
Ah bah, 15, tu leur fais des câlins.
Mais 9-0, c'est respect. Mais moi, je prends 9-0, je suis humilié.
Non, mais tu sais, ils peuvent très bien s'arrêter. Ils peuvent très bien s'arrêter à 4 et lever le pied et faire tourner. Là, c'est qu'il y a une volonté de tout bien faire dans cette équipe en ce moment, d'aller au bout, de démarrer très fort en menant 3-0 super vite. Super performance, vraiment, vraiment. Match de semaine de Coupe de France où tu mets 9-0. Je sais même pas si c'est déjà arrivé.
Les
résultats en Coupe de France à 9-0 sur les 10-20 dernières années.
Non, moi c'est pas le 9-0.
Tous les matchs étaient très serrés.
Il doit pas. Non, mais même sur les 10-20 dernières années, il doit pas y en avoir beaucoup de scores comme ça.
Mais moi c'est pas le 9-0. Même si ça se terminait 15-0, ce qui m'impressionne, c'est le 3-0 après.
Ouais, après un quart d'heure.
Quand je m'attends à une équipe motivée, je m'attends à des gars agressifs. Après, je m'attends à commenter en disant ouais, mais ça va, ils seront pas comme ça tout au long du match. En deuxième période, ils vont craquer et tout. Mais ils craquent au bout de 15 minutes, Bourg-en-Bresse. Mais ça, c'était pas prévu.
Donc voilà la balade marseillaise.
Ça doit être l'OM le responsable.
Louis est là, supporter marseillais. Salut Louis.
Bonsoir à tous.
Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette baffe que l'OM a mis à Bourg-en-Bresse?
Alors, franchement, baffe, le mot est faible, hein, parce que pour moi, c'est un magistral coup de pied au cul, si vous me permettez. Ce que je retiens, moi, surtout, c'est vraiment le sérieux de cette équipe marseillaise. Et ce que je retiens, c'est que les mots qui ont été dits à Metz, que ce soit de Gustavo, de Rami, de Garcia, de Thauvin, ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Ils ont été sérieux du début à la fin du match. Ils ont respecté du début à la fin du match. Ils se sont battus du début à la fin du match. Enfin, je veux dire, ils ont réalisé pour moi le match parfait, autant collectivement qu'individuellement, sauf pour NG, que je mets un peu à part. Non, franchement, pour moi, ce n'était que Bourg-en-Bresse, c'est le 18e de Ligue 2, mais c'était un OM parfait et c'était un OM presque au complet.
Je peux te donner mon point de vue sur les commentaires d'après-match à la suite des 3 buts pris contre Metz.
Oui.
Je les ai trouvés ridicules.
Quand Rami arrive en disant c'est une faute professionnelle,
c'est mon point de vue, parce que ce n'est pas un 6-3 après 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, c'est un 5-0 qui se transforme en 6-3. Et si par exemple tu as à chercher des fautes professionnelles, il y a un match juste avant qui s'appelle OM Monaco au stade Vélodrome, tu en prends 2 buts qui sont beaucoup plus importants que ceux de Metz. Tu en prends un 3e qui est refusé, qui aurait pas dû être refusé et qui était valable. Là, à la suite de ce match-là, je veux entendre parler de faute professionnelle. On prend trop de buts contre
Monaco. Oui, là, c'était très exagéré.
Là, le Metz, qui déjà s'en prend 6, je suis Messin et en plus j'entends qu'en face, il y a eu une faute professionnelle de celui qui vient de m'en mettre 6 dans la gueule. C'est trop pour la soirée quand je suis médecin. Et tu sais très bien que je suis pas né à Metz, je suis né à Marseille.
Qui vous a mis 6 dans la gueule. Adil Rami, lui, son boulot, c'était de défendre. Et son boulot,
qu'il me fasse les mêmes déclarations contre Monaco quand normalement, le score, c'est 3-2 pour Monaco. Avec 3 buts
évitables. Normalement, le score, c'est 3-2 pour Monaco, mais comment vous pouvez dire ça? Et si Monaco marque le but, comment vous pouvez savoir que Marseille ne va pas se réveiller ensuite? C'était un match en rebondissement, il y a ça à arrêter s'enchaîner.
On va être sûr d'être d'accord, puisqu'on peut pas savoir si le but de Jemerson n'était pas à la 93e minute. On est d'accord. Mais contre Metz, essaye d'être 30 secondes de médecin. Tu en prends 6 dans la gueule, et en plus de ça, les adversaires, ils sont pas contents parce qu'à la fin, il y a une petite réaction, ils ont eu un petit relâchement. Mais si, à chaque fois que tu en mets 6, il y a un relâchement d'en mettre 3, mais je suis content, parce que Rami, si à 6-3, il y a la faute professionnelle, le jour qu'il va gagner 10-5, il se pend.
mais le pire, c'est que je suis persuadé qu'il le fera.
Ça sera dommage.
Non, n'allons pas jusque-là. Enfin, moi, j'ai développé ta théorie avec moins de verve dans Team Dugas. Je me suis fait rentrer dedans par Jean-Louis Tour et Dugas. Je me suis dit, mais non, il a raison, Rami. C'est son boulot, il faut défendre.
Bon. Mais non, mais.
Bon, enfin bref.
Mais d'abord, tu ne défends pas tout seul. Il n'y a pas que les défenseurs qui défendent. Il peut en vouloir à ses attaquants et ses milieux qui éventuellement se sont relâchés et les ont abandonnés au point d'encaisser 3 buts. C'est pas ça. On en a parlé dès vendredi soir. Je veux même comprendre le souci d'exigence. C'est très bien. Le perfectionniste, c'est parfait. Mais c'était dans le contexte. On a bien senti. Tu sais, comme on dit en politique, le mec, en gros, le président qui voit ses collaborateurs, l'entraîneur qui voit ses collaborateurs, les joueurs, il dit « élément de langage, on n'affiche pas trop de satisfaction pour maintenir un peu la motivation et on fait la gueule parce qu'on en a pris 3 ». C'est de l'élément de langage de communication. Je suis en train de les accuser. Je le comprends, c'était exagéré.
Alors, si tu veux m'analyser le match sur le plan défensif, il faut que tu me parles aussi des arrêts de Mandanda dans la première partie du match. Et que si tu me dis à la fin que les Messins ont eu trop d'occasions, ok, mais si tu me parles uniquement des 3 buts que tu as encaissés alors que tu mets 5-0, tu m'intéresses pas.
Je suis d'accord.
On s'en fout des 2 derniers buts à la 92e et à la 93e minute. C'est les arrêts de Mandanda qui m'inquiètent.
C'est les actions concédées. Louis, merci, c'est ce qui s'est passé quand il y avait 2-1.
Ben oui.
Là, ça devient plus intéressant sur le plan défensif, le match à analyser. Mais les 2 buts
et
à
le,
la
et
fin.
Le, et le match d'avant, tu viens d'en prendre 2 contre
pipo,
Monaco.
C'est un peu pipeau.
Et tu aurais pu même en prendre 3. C'est tout. Je t'ai pas dit que l'OM, ils auraient dû perdre contre Monaco. Ils auraient pu être menés 3-2.
Messieurs, dames, voilà. Archives de l'after. C'était après le tirage au sort.
La honte.
C'était après le tirage
Gilbert,
au sort.
Tu m'en veux,
Des huitièmes. Ah non, je t'en veux pas,
si,
moi.
Tu
je
m'en
trouve
veux,
ça très
tu
drôle.
M'en veux. J'étais convaincu.
Jérôme et Daniel faisaient leur petit pronostic. Et voilà ce que disait Daniel après le tirage au sort entre Auxerre et les Herbiers. Auxerre recevra les Herbiers.
Les Herbiers ne veulent pas jouer.
Ah ouais, non. Équipe bis, les Herbiers.
Mais oui, mais c'est à cause de la blague.
C'est la honte.
Voilà. Mais non, mais en plus c'est vrai parce que je me souviens, c'était quoi la blague, les Herbiers, ils voulaient pas jouer la Coupe de France ou il y avait un truc comme ça.
Ben non, parce qu'ils luttent pour le maintien en national.
Ouais, mais ils avaient eu des déclarations.
Ben non, mais c'est l'entraîneur qui nous avait dit, faut quand même qu'on se maintienne et tout.
Ah, oui, c'est vrai.
Parce qu'en fait, ils ont changé d'entraîneur. Il y a quelques semaines.
Attends, essaye de me sauver. Avec quel match j'ai pu confondre? Une petite équipe qui bat une grosse, vas-y.
Je sais pas. Si, à Grandville. Si, t'as dit Grandville qui gagne à Chambly. C'est tout.
Et si le vainqueur de Chambly-Granville rencontre les Herbiers,
ils sont
ça va finale. Faire une belle équipe en demi-finale.
C'était les huitièmes, là ?
Mercato.
Ah ouais.
Dans quelques instants, Mercato et...
Comment ça, Mercato ?
Oui, j'ai une petite info Mercato à vous donner.
Ah
et Bruno Genesio, qui crie au complot contre l'Olympique Lyonnais. Vous pourrez l'entendre dans quelques instants. Je rappelle les qualifiés du soir en Coupe de France. Paris, Marseille et les Herbiers. A tout de suite dans l'After.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Gilbert Brébois.
Daniel Riolo est là ce soir et coach Courbis dans l'after, messieurs, dames, le retour de coach Courbis dans.
Oh, la comparaison m'a touché là, tout à l'heure.
De quoi ?
Avec Zizou.
Oh. Ah oui, il y a eu un tweet.
Je m'attendais pas à ça.
Ah oui, je me souviens pas parce que là je l'ai plus sous les yeux, mais le gars disait le retour de Roland ce soir dans l'after, c'est Zidane 2006.
Oui, enfin, vu comment ça s'est fini. Ouais, c'est précis que l'émission se termine dans 10 minutes.
Non, mais il disait aussi que Daniel, il avait perdu l'habitude, ça allait éviter de trafiquer son téléphone.
Tu me demandes de l'attention.
Non, mais je réfléchis sérieusement à faire comme dans les, tu sais, dans les panic rooms de la Maison Blanche, où il y a une boîte à téléphone, tu sais. Genre Obama, par exemple, il pose son téléphone avant de rentrer avec la CIA dans la réunion, tu vois. Peut-être en mettre une là à l'entrée du studio, bon, une boîte à téléphone.
Obama, il est plus président.
Ouais, mais la boîte à téléphone est toujours là.
Ah oui, d'accord.
Tu crois que Trump, il laisse pas son téléphone?
Je n'ai aucune idée. Ça m'étonne.
En tout cas.
Ça m'étonne parce que vu qu'il a besoin de tweeter très régulièrement.
En tout cas, Evra va signer à West Ham.
Oh là là, déjà que le club est dans la merde.
Donc, alors c'est pas encore fait, mais c'est le Times qui annonce.
T'imagines toutes ces vidéos là.
Times, journal très sérieux, donc on peut leur faire confiance.
À West Ham, déjà qu'ils sont pas bien.
Eh non, mais ils l'ont pris pour remonter.
Redresser le club, tu crois?
Eh ben oui.
Oh là là.
Alors, j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure, Roland, qu'il l'avait peut-être pris comme analyste vidéo.
C'est vrai que les vidéos du lundi le vont manquer, mais il va peut-être continuer à les faire.
Il va les faire, t'inquiète, alors, on pourra les voir. Hein.
Ils sont 12e, hein, West Ham, c'est pas non plus, ils sont pas derniers. Hein. C'est West Brom qui est dernier.
C'est vrai, à un moment, ils étaient bien plus mal en point. C'est vrai.
Non, mais plaisanterie mise à part.
Avec lui, peut-être ils accrochent l'Europe. Hein.
C'est bien là, de retrouver un club de ce niveau.
Ce qui est dommage, c'est surtout que ça enlève une place éventuelle pour Kurzawa. Kurzawa pour ceux, genre Jérôme Rotten, pas moi. Ceux qui s'acharnent sur lui, pas moi. Qui espéraient un point de chute pour lui en Angleterre, West Ham faisait partie des points de chute. Là, maintenant qu'ils ont pris un arrière-gauche de ce niveau, t'imagines, tu prends Evra et doublure Kurzawa dans un club. T'es bien, hein. Pour le turnover, tout ça, c'est pas mal.
Oh, et puis, si joue en même temps, c'est vrai.
Et puis les gars, je vais vous faire écouter Bruno Genesio.
Ah, le complot.
C'est quoi ça?
Ah bah, vous allez l'entendre, il dénonce une très bonne campagne de presse sur les pénaltys. Orchestrée par des concurrents directs, dit-il. Donc on va l'écouter. On débat.
Il y a eu une très bonne campagne de presse qui a été faite par nos concurrents directs. Ça marche, c'est bien. 6 pénaltys sur les 8 derniers matchs, il me semble que j'ai cru voir ça. 6 pénaltys concédés sur les 8 derniers matchs. Le pénalty de Bordeaux, je ne vais pas y revenir, c'est juste gaguesque. Je n'aime pas critiquer l'arbitrage parce que c'est très difficile. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on se pose les bonnes questions.
Voilà, le célèbre « je n'aime pas critiquer l'arbitrage, mais à un moment donné ».
Non, moi je préfère le « on se pose les bonnes questions ». Quelles questions? On ne sait pas. Sur quoi ça peut déboucher, on ne sait pas. Et qui a orchestré le complot?
Alors c'est vrai qu'il y avait la fameuse histoire « Oh, pénalty pour Lyon !» Vous savez, quand il se passe n'importe quoi, ben tu tombes dans la rue, « Oh, pénalty pour Lyon !»
Pénalty contre Lyon, maintenant.
C'est pénalty contre Lyon.
Mais pourquoi, en fait? À part celui de Malcolm, qui effectivement... Bon,
6 pénalty concédés sur les 8 derniers matchs.
Oui, mais à part la simulation de Malcolm, les autres, est-ce qu'ils se discutent? Est-ce que derrière on peut
temps,
y
il
voir
parle pas de Mariano là.
Est-ce qu'on peut y
aussi,
voir
lui aussi a obtenu un penalty.
Est-ce qu'on peut y voir une manipulation? Et puis qui a orchestré la manipulation et le complot?
Il dit les concurrents directs.
Ah, c'est Marseille qui est derrière
concurrents
le complot.
Direct, c'est qui? C'est Marseille, c'est Lyon les concurrents directs.
Monaco, tu veux dire.
C'est Monaco, Marseille, voire Paris. Je sais pas s'ils considèrent Paris comme un concurrent direct.
Paris, je sais pas s'ils sont dans les complots aussi.
Ils ont autre chose à faire.
Ouais.
Bon, enfin voilà. Donc,
le problème, c'est que c'est toujours pareil, quoi.
Bah là, il était bien en plus pour Genesio ces derniers temps. Là,
c'est pas le genre Pep à critiquer les.
Oui, c'est vrai, c'est étonnant.
Les arbitres, là, je pense que ça traduit quand même une forme d'impuissance du moment. Deux défaites de suite, c'est pas bon pour un club comme Lyon. La manière n'y est pas, et visiblement, ils ne trouvent pas les solutions. Et donc dans ces cas-là, tu viens, tu fais de la com et tu dis qu'il y a un complot.
Il y a quand même certains matchs de Lyon qui sont bizarres, qui se ressemblent beaucoup. Je trouve, j'ai vu de beaux matchs de Lyon. J'ai vu aussi des matchs avec le final un petit peu chanceux. Je me rappelle, on parle du match retour de Bordeaux avec le pénalty de Malcolm. Ok, mais il y a eu le match aller avec ce 3-3 et ces deux buts qui sont remontés sur la fin à 10 contre 11. Il y a eu ce 3-3, je crois que c'était à Angers, alors qu'il mène à 3-1 et qu'il y a
Lyon
Marcelo
qui se fait... beaucoup de matchs bizarres, tu as raison. Et dans matchs bizarres, je compte aussi Fekir qui marque à la dernière minute contre Monaco.
Mais contre Monaco, une minute avant, il y a une occasion pour Monaco, tu le gagnes. La victoire à Amiens, celle-là, je l'encadre. Suivant à la fin de la saison, le classement de Lyon, la victoire à Amiens, avec le scénario de la fin, où tu vois Calcutta qui a le ballon, qui rate le penalty, et que dans la minute qui suit, c'est Lyon qui marque, Genesio qui est expulsé, et qui a, je sais même pas s'il a vu le but de la victoire. C'est son président qui lui dit, on vient de marquer.
Attends, Roland.
Celle-là de victoire, elle est magnifique.
Roland, continue.
Là, j'espère qu'il n'y a pas de complot, comme on la touche pas, celle-là de victoire, parce que celle-là, elle est magnifique.
Attends, il n'y a pas que ça. La victoire contre l'OM, c'est un match bizarre.
Si je suis Amiens ce soir-là, ou l'arbre que je cherche avec la corde pour me pendre.
Alors, victoire contre l'OM aussi. La victoire contre le PSG, il faut aller la chercher, cette victoire-là. Ça fait un nombre de matchs sur les 24, c'est une proportion quasi d'un tiers de matchs qui ont tourné sans contrôle. Toi, à un moment, quand t'as une équipe qui doit viser le podium, tu dois quand même contrôler les événements de temps en temps. Ils les ont pas souvent contrôlés, les événements.
Et Genesio, sur ces derniers temps, n'avait que des éloges et des compliments mérités. Là, il y a ce match à Bordeaux. Bon, allez, ça va, c'est un accident. Tu as gagné 6 matchs à l'extérieur. Le 7e, tu le perds à Bordeaux, que peut-être Bordeaux sait même pas comment ils ont pu faire. Ils viennent de gagner à Nantes avec Bédoué. Ils rechangent
le choc psychologique.
Ok. Derrière ça, tu perds un match à Monaco où là, il vaut mieux se faire petit. Bon, tu attaques la faute professionnelle, machin, anormal. Ok, d'accord. Et après, le lendemain ou le surlendemain, ça suffit encore pas. Je pense que cette déclaration, elle est de trop. Ces derniers temps, il a que des compliments. En plus, il les mérite. Restons discrets et préparons le match d'après pour Lyon.
J'en ajoute un petit, là, à votre liste. C'est le match contre Limassol. Vous vous souvenez, le 1 partout, là, sur la Coupe d'Europe, il y a eu des matchs aussi un peu compliqués.
Alors, celui-là, il n'est pas dans la catégorie bizarre. Il est dans la catégorie pourri.
Ah oui, tu peux. Oui.
Catégorie pourrie, il y a celui, il y en a quelques-uns en Europa League, il y a celui contre Nantes au début de la saison. Sur les 24, je te dis, entre bon match, match bizarre et match pourri.
Bah, ils sont toujours dans la course.
Il y a pas. Ouais, voilà. Mais c'est. Ça manque globalement de contrôle.
Ouais, mais là,
Pep Genesio, il y est pour quelque chose.
On est surpris de les voir perdre deux matchs d'affilée. Avec en plus deux fois trois buts. C'est Bordeaux et Monaco.
Et
Monaco
voilà,
qui a joué un grand moment à 10.
On n'a pas parlé donc des salaires en Ligue 1 qui ont été dévoilés aujourd'hui. Je signale quand même que Ben Arfa est 13e, hein, pour un mec qui joue jamais. 13e
franchement,
salaire.
Franchement, les salaires comme ces données-là, de toute façon, on est tellement. Ça ne sert à rien du tout. On est loin des réalités, loin de ce qu'il y a dans les contrats.
Des estimations.
Ça n'a aucun intérêt.
Roland, merci pour ce one-shot magnifique. Et bien sûr, t'es chez toi, hein. L'after, c'est ta maison. Donc, tu reviens quand tu veux. Qualification de Paris,
salut
de Marseille, des Herbiers ce
Qu'est-ce
soir.
Qu'est-ce que j'ai dit pour Montpellier-Lyon demain?
T'as dit Montpellier, alors que Jérôme avait dit Lyon. Voilà, on a les preuves.
Allez, je vais me refaire demain.
Puis demain, il y a Lens 3. Demain, il y a Lens 3, t'as dit Lens, t'as dit 3.
Montpellier-Lyon, prolongation.
Ah.
Non, mais je fais des verres.
Et puis il y a Metz, quand t'as dit Metz?
C'est pas un résultat.
Metz, quand j'ai dit Metz?
Bah ouais.
Bah ouais, je m'en tiens.
Allez, à demain soir justement pour analyser la Coupe de France. Bonne nuit à tous et à demain à l'after.
RMC, le super football show, l'after foot.